enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Chrétiens, on vous observe. Nous sommes observés. C'est très certainement parce que nous avons de la valeur quelque part. Celui qui n'a pas de valeur n'a pas d'ennemis et n'est pas observé. Mais celui qui a de la valeur et qui est un enjeu pour quelque chose est observé. Alors, nous allons voir comment, dans un premier exemple, de quelle manière nous sommes observés. Jérémie 20, 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Accusez-le et nous l'accuserons. Les accusateurs cherchent toujours des alliés pour nous détruire. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Voyez-vous, dès l'instant où Dieu vous appelle, tous les regards sont sur vous. Le jeune converti va être l'objet de l'observation de ses amis, de sa famille et de tout son entourage. Ceux qui, auparavant, étaient ses amis deviennent maintenant des observateurs pour voir s'il ne va pas chanceler. Dès que Dieu s'intéresse à nous, nous faisons trembler l'enfer. Si Dieu s'intéresse à vous, c'est que l'enfer va commencer à trembler. Et si l'enfer tremble, c'est que, inévitablement, les gens autour de vous vont commencer à vous observer pour vous faire chuter, vous condamner et essayer de vous faire perdre votre grâce. Il faut donc être très prudent. Lorsque l'on marche dans l'onction, il faut faire très attention aux gens qui nous conseillent, qui nous entourent. Et il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Il ne faut pas croire que parce que des gens nous ont appréciés pendant un certain temps, ils vont continuer à nous apprécier. L'onction bouleverse beaucoup de choses. Si Dieu vous appelle, si Dieu commence à vous faire confiance, si Dieu s'intéresse à vous et que vous commencez à être porteur d'un message, votre position va changer. Peut-être se laissera-t-il surprendre nos ennemis et ceux qui sont amis mais deviennent ennemis parce qu'ils sont jaloux de ce que Dieu nous donne. Il y a une jalousie qui est certaine. Le cœur de l'homme est jaloux. Les hommes sont jaloux. L'humanité est remplie de jalousie. Et tant que vous êtes bien ami avec quelqu'un, mais que vous ne le dépassez pas, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu vous donne quelque chose de plus et vous confie une mission, le problème va commencer. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Le diable a toujours espérance. Il a l'espoir que nous allons nous laisser surprendre et que nous allons manquer de vigilance. En nous appuyant sur les raisonnements terrestres, charnels, diaboliques, qui sont voués à partir au feu. Et nous serons maîtres de lui. Si nous manquons de vigilance, si nous commençons à être dans un sentiment de compromis, si l'amour charnel et terrestre commence à nous envahir, si par compassion, non pas du ciel, non pas compassion de l'esprit, mais compassion de l'amitié charnelle, nous commençons à laisser du terrain à l'ennemi, nous allons nous faire surprendre. Il ne faut pas faire de sentiments. Les sentiments de la chair, les sentiments de l'âme doivent être écartés dès l'instant où Dieu commence à vous confier quelque chose, dès l'instant où Dieu commence à vous parler. On ne peut plus raisonner avec le raisonnement terrestre. On ne peut plus évaluer les choses sur un plan horizontal, humain, il faut commencer à raisonner sur un plan spirituel. On nous observe. Dès que Dieu nous confie quelque chose, on nous observe. Les yeux sont grands ouverts sur nous. Et si quelqu'un nous voit chanceler, il va se réjouir. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Je bénis le Seigneur pour la faiblesse, parce que c'est la faiblesse qui nous permet de crier vers Dieu afin de trouver un héros puissant. Celui qui se sent fort et qui pense que par lui-même, il va combattre les regards observateurs ou les pièges que les autres lui tendent, il se trompe. Si vous pensez avoir suffisamment de puissance en vous-même, c'est que vous êtes suffisamment orgueilleux pour ne pas avoir de héros. Moi, je me réjouis de ce que je suis faible et de ce que dans ma faiblesse, je cherche mon héros, Jésus-Christ, qui me délivrera. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'enjeu devient éternel. Dieu nous confie quelque chose, on nous observe, et si on voit une faille, si on voit un peu de désordre, s'il y a un peu de l'édifice qui tend à s'ébranler, à ce moment-là, nos persécuteurs en profitent. Mais ici, Jérémie dit que non, ce sont ceux qui m'observent qui vont chanceler, qui vont périr. Moi, je resterai ferme. Alors, nous sommes observés. Pouvons voir l'exemple de Daniel pour comprendre de quelle manière le diable va nous observer et comment il va toucher le cœur de ceux qui nous entourent pour nous faire tomber. Livre de Daniel, chapitre 6. Nous allons d'abord voir que l'ennemi s'intéresse à nos actions. Daniel 6, versets 4 et 5. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Ceux qui nous observent vont d'abord chercher dans nos actions ce qui va leur permettre de nous accuser. Si mes actions ne sont pas droites, ne sont pas fermes, je chancelle. Et si je chancelle dans mes actions, je me ferai détruire par mes accusateurs et ceux qui m'observent. Si Dieu vous a confié quelque chose, il est absolument nécessaire maintenant d'être au clair par rapport aux affaires de la société. Car le diable commencera par ces choses-là. Il va commencer par observer si nous sommes au clair et si nous marchons en droiture de cœur vis-à-vis de la loi de ce pays ou du pays dans lequel nous vivons. Il va regarder si nous sommes un fraudeur ou si nous marchons avec droiture. C'est la première chose. Le diable fait cela parce qu'il sait très bien que dans le cœur naturel de l'homme, il est d'abord plus facile d'observer quelqu'un par rapport à la droiture dans laquelle il vit, dans le contexte dans lequel il vit, plutôt que d'essayer de voir s'il commet quelques péchés par rapport à la loi de Dieu. C'est plus facile, si vous n'êtes pas en règle avec la société, de vous accuser que si vous n'êtes pas en règle avec les affaires de Dieu qui sont un peu plus complexes pour celui qui est néophyte, qui ne connaît pas la Bible. Et précisément, c'est là où nous allons comprendre que lorsque le diable, lorsque ceux qui nous observent n'arrivent pas à trouver une faille dans nos actions et dans notre droiture par rapport au gouvernement, à la société qui nous entoure, l'ennemi va plonger ses regards beaucoup plus loin. Nous voulons continuer. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Voilà les accusateurs. Voilà ceux qui observent. Vous savez que vous êtes observé sans même le savoir. Les gens vous observent parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes en marge de la société. Les gens ressentent le pouvoir spirituel qui est sur nous et notre différence spirituelle. Sans connaître la Bible, inconsciemment, intuitivement, parce que la conscience de l'homme a été programmée pour discerner quelque peu les choses spirituelles, inconsciemment, ceux qui vous observent, vos voisins, vos amis dans le travail, vos frères et sœurs non convertis, vos parents non convertis, les gens de votre famille, ils vous observent. Il n'y a pas là de paranoïa, nous n'avons pas à avoir peur de nous sentir observés de partout, c'est une réalité. Nous sommes observés. Et ceux qui nous observent en silence. Et s'ils voient une faille, ils viendront nous accuser au plein jour, ou ils le feront peut-être d'une façon plus détournée, en hypocrite. Lorsqu'ils viennent et qu'ils ne trouvent pas de faille sur le plan social, alors ils sont confondus et très ennuyés. Et à ce moment-là, Dieu se réjouit. Mais la chose ne s'arrête pas ici, nous voulons continuer. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ceux Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Voilà la deuxième étape. Chrétien, chrétienne, on vous observe. Si vous faites bien dans la société, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'ennemi fera en sorte de déléguer auprès de vous des gens un peu informés sur la loi de Dieu, informés en tout cas sur la moralité qui est dans la société et qui a été donnée par grâce. Car il y a une certaine moralité dans la société qui est issue de la loi de Dieu. Il y a des gens dans le monde qui font naturellement le bien parce qu'ils obéissent à leur conscience. Et la loi qui est dans leur conscience n'est autre que la loi de Dieu. Il y a donc des gens bien qui vont venir vous observer au-delà de la rigueur de la société. Ils vont vous observer par rapport à la moralité, par rapport à la loi même de Dieu, par rapport à votre engagement de chrétien. Et si vous n'êtes pas dans la légalité, ils vous accuseront en plein jour, ou peut-être d'une façon dérobée, comme je l'ai dit, comme des hypocrites. Ou pire encore, l'accusation se fera spirituellement dans le monde des ténèbres. Et Satan ira revendiquer devant Dieu et dira « Oh Seigneur, tu es juste, j'ai désobéi, tu m'as châtié, mais regarde ton enfant, nous l'avons observé, tu lui as confié quelque chose de merveilleux, tu lui as donné ce qu'il t'a demandé, mais qu'est-ce qu'il est en train d'en faire ? Mon Dieu, regarde, tu m'as châtié, moi, Satan, mais lui, ton enfant, il faut le châtier aussi. » Parce que nous l'avons observé, et dans la loi des hommes, nous n'avons rien trouvé à redire. Mais nous avons trouvé une faille dans ta loi, Seigneur. Il n'obéit pas et n'observe pas ce que tu dis. Alors s'il te plaît, comme tu es juste, permets-moi d'aller un peu le tourmenter, puisqu'il chancelle, je dois en profiter, c'est mon droit. Et Dieu permettra, Dieu le permettra. Ne vous faites aucune illusion là-dessus. Dieu permettra qu'il y ait quelques souffrances. Vous attendrez peut-être d'aller au ciel pour connaître que des démons vous ont observé, que des gens vous ont observé autour de vous et qu'ils ont fait, malgré eux et sans le savoir, une prière contre vous de malédiction. Peut-être ont-ils été murmurés en disant « Oh, mais ce chrétien, cette chrétienne se comporte bien comme ça devant les hommes, mais il dit qu'il est chrétien, mais dans la Bible, il ne respecte pas tout ce qui est dit. » Et voilà que le murmure engendré est comme une forme de prière auprès de Satan. Oui, je vous dis que c'est comme cela que ça se passe. Les gens vont penser à votre sujet, les gens vont parler à propos de vous, et s'ils pensent avec justesse, s'ils disent des choses qui sont conformes à la vérité, ce qu'ils diront deviendra une prière contre vous. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller sur nos actions et d'obéir au Seigneur à tout prix. Il y a donc l'observation, comme nous venons de le lire, sur la loi des hommes et sur la loi de Dieu. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que parfois, ceux qui nous observent sont prêts à s'informer de notre foi et de la loi de Dieu pour mieux nous accuser. Est-ce que ce n'est jamais arrivé à personne ? Très certainement, c'est arrivé. Quand des gens de votre famille commencent à vous accuser en disant « Mais toi qui es chrétien, comment peux-tu faire une chose pareille ? Comment peux-tu dire ça alors que dans la Bible, il est écrit ?» Que Dieu nous préserve et que Dieu nous donne d'être droit devant lui. C'est lorsque nous serons droits que tout ira mieux et que ce ne sera pas le constat de notre échec, mais ce sera le constat de l'échec de ceux qui nous observent, comme nous l'avons vu dans Jérémie. Alors, nous pouvons poursuivre nos exemples avec Jésus lui-même. S'ils ne trouvent pas dans la loi des hommes, s'ils ne trouvent pas dans la loi de Dieu, que vont-ils faire ? Ils vont observer nos paroles et notre doctrine. Je voudrais que nous allions voir dans Matthieu 22, 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Nos accusateurs, ceux qui nous observent, s'ils ne trouvent pas dans nos actions quelque chose à nous reprocher, ils vont essayer de nous prendre en défaut sur nos paroles. Vous ne pouvez pas prendre Jésus en défaut sur ses actions. Jésus était parfait en action devant les hommes. Et ce qu'il faisait n'était que de bonnes choses, guérir les malades, soulager ceux qui étaient opprimés. Mais Jésus prêchait aussi, comme il nous arrive aussi de prêcher la bonne parole. Et quand nous avons veillé sur nos actions, nous devons maintenant faire attention à ce que nous disons, afin d'être en conformité avec nos paroles. Sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Est-ce que je suis cohérent dans ma façon de bâtir ma vie par rapport à ma façon de parler de la vie ? Est-ce que vous me suivez bien ? Est-ce que j'arrive à me mettre en conformité dans ma philosophie de la vie ? Comment est-ce que je vois la vie ? Comment est-ce que j'aimerais que la vie soit construite ? Comment je conseille aux autres de construire leur vie ? Et comment moi, je construis ma propre vie ? Est-ce que mes paroles sont en accord avec ce que je mets en œuvre ? Il ne s'agit plus de la loi des hommes, il ne s'agit plus de la loi de Dieu, il s'agit de mon engagement personnel et de mes choix. Je dois absolument veiller afin que l'ennemi ne me prenne pas en défaut par rapport à ce que je dis. Trop de chrétiens sont pris en défaut. Ils prient une chose, et dès qu'ils ont fini de prier, leurs actions et leurs paroles vont contre ce qu'ils ont demandé dans la prière. Si vous priez le Seigneur, sachez que vous êtes observé, et sachez que vous devez aller dans le sens de la foi. Ce que je demande à Dieu, je dois croire qu'il me l'accorde. Et si je lui demande, je dois me mettre en conformité avec ma demande. Je ne dois pas être, j'aime ce mot, parjure. C'est-à-dire que je n'aime pas me mettre en contradiction par rapport à ma prière. Vous priez d'une certaine façon, il faut aussi agir dans le sens de votre prière. La prière, c'est bien plus que des mots. C'est une mise en œuvre de l'inspiration du Saint-Esprit dans ma bouche. Parce que la vraie prière ne vient pas de l'homme, elle est inspirée de Dieu. C'est ainsi que je ne dois pas me mettre en défaut par rapport à l'inspiration de Dieu dans ma bouche. Oh, je ne suis pas plus fort que les autres et croyez-moi que je m'enseigne aussi. Car si nous veillons sur la loi, si nous veillons sur la loi de Dieu, la loi des hommes, la loi de Dieu, nous devons aussi veiller sur nos engagements par rapport à ce qui sort de notre bouche, parce que ce qui sort de notre bouche constitue parfois une loi personnelle. Jésus ne pouvait pas être pris en défaut par rapport à tout ce qu'il disait, et sa doctrine était parfaite. Il y a des gens qui confessent une doctrine aujourd'hui et qui demain confessent une autre doctrine. Comment voulez-vous que les gens de vos familles vous prennent au sérieux ? Comment voulez-vous que ceux qui vous observent, soit pour vous détruire, soit parce qu'ils ont peut-être espérance de sortir de leurs problèmes. Vous savez, les gens nous observent. Parfois, c'est parce qu'ils sont dans des problèmes tellement gros eux-mêmes qu'ils nous observent avec un peu d'espoir. Aujourd'hui, vous leur donnez une doctrine et demain, vous leur donnez une autre doctrine. Faites bien attention à votre doctrine. Avant de la professer autour de vous, soyez sûr que ce que vous dites, vous l'avez vécu avec le Seigneur. Il n'y a rien de pire que d'exposer une doctrine dont on n'a pas été convaincu par expérience. Écoutez bien, une doctrine doit être proférée lorsqu'elle a été vécue par expérience. Si on vous a inculqué une doctrine, soyez très prudent. Si vous avez fait l'expérience de la doctrine, alors allez-y. J'entends par là que si vous donnez de l'argent pour le Seigneur parce qu'on vous l'a dit, mais que vous n'en avez jamais été convaincu, n'allez pas dire autour de vous que vous donnez de l'argent pour le Seigneur. Parce que peut-être demain, vous chancellerez et vous douterez et vous ne voudrez plus rien donner. Et là, on viendra vous accuser en vous disant « Mais hier, tu donnais, tu nous disais, puis aujourd'hui, tu n'es plus d'accord pour donner, alors il y a quelque chose qui ne va pas, donc nous avions raison lorsque nous te disions de ne pas donner. » Faites très attention avec votre doctrine. La doctrine doit être vécue par expérience. Si elle en est encore au stade embryonnaire de la conviction émise par l'Église ou par le prédicateur, je dois être prudent sur l'expression de ma doctrine. Ce que je pratique avec Dieu, je le pratique parce qu'on me l'a enseigné. C'est bien. C'est déjà embryonnaire. C'est déjà un premier pas. Dans cette pratique, je dois faire une expérience afin que Dieu confirme ma doctrine. Et je dois être très prudent pour ne pas parler de ma doctrine tant que Dieu ne m'a pas confirmé par une expérience. Je ne veux pas être compliqué, mais très certainement, on observait Jésus pour voir s'il se contredisait dans sa doctrine, s'il se contredisait dans ses paroles, ou si ses paroles étaient en décalage par rapport à sa façon de vivre. Nous sommes observés, et il faut faire attention. Que Dieu soit béni si les gens n'ont pas trouvé de faute sur le plan social, s'ils n'ont pas trouvé de faute sur le plan de la loi de Dieu, s'ils n'ont pas trouvé de faute dans notre constance doctrinale, dans nos paroles et dans notre façon de vivre en harmonie avec ce que nous confessons, alors à ce moment-là, ils vont se déchaîner parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Nous voulons aller un peu plus loin dans Marc 14, 56. Voilà ce qui se produit. La mauvaise foi de Satan va se manifester. Je peux vous assurer une chose, c'est qu'à ce stade-là, vous ne craignez plus rien. La mauvaise foi ne pourra pas plaider contre vous devant Dieu. Absolument pas. Satan pourra venir avec de faux témoignages. Dieu lui dira, mais je ne reçois pas ton témoignage. Je suis juste, ton témoignage est faux. Repars donc avec toute ta valise diplomatique et avec tous tes beaux contrats qui n'ont aucune valeur. Nous sommes là dans Marc 14, 56, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Voilà que on ne trouve aucune faille dans la personne de Jésus, donc il faut bien bâtir des faux témoignages. Chrétiens, on vous observe. Et si on veut vous avoir, eh bien on ira jusqu'au bout. Mais béni soit le Seigneur de ce que le faux témoignage ne pourra pas subsister contre un chrétien. Lorsqu'on est observé et que l'on n'a trouvé aucune faille, que l'on se dit « Oh, ce chrétien ne chancelle pas, il est vraiment honnête », alors à ce moment-là, on va essayer de construire de fausses histoires ou de vous entraîner dans des complots qui vont être en fait des histoires montées de toutes pièces pour vous détruire. Mais je bénis le Seigneur de ce que la parole dans Marc 14, 56 est claire. Les faux témoignages ne peuvent pas tenir parce que quand nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons dans la vérité, les faux témoignages se contredisent entre eux. Dieu envoie une puissance de contradiction, une puissance de confusion dans ceux qui nous accusent faussement. Tôt ou tard, je vous garantis, et ce n'est pas moi quand je dis « je vous garantis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que j'en ai fait l'expérience. Et si vous en faites l'expérience, vous pourrez en témoigner puissamment. Ceux qui bâtissent tout un dossier de fausses accusations vont se retrouver tôt ou tard dans la confusion. Parce que Dieu est juste. Et quand un ambassadeur du monde des ténèbres présente devant Dieu un faux témoignage, Dieu envoie une puissance de feu sur ce faux témoignage. Ce faux témoignage peut être aussi des esprits méchants qui se présentent dans le ciel devant le Seigneur, mais cela peut être aussi des gens qui, dans le monde, viennent même jusque dans les milieux religieux, dans les églises, présenter des choses au nom de la vérité qui sont fausses. Les témoignages ne s'accordaient pas. Oh, comme Dieu a beaucoup d'humour! Un jour, nous sommes accusés et le lendemain, Dieu nous fait justice et nous pouvons même sourire, je dirais même rire, de ce que ceux qui ont monté de fausses histoires n'ont pas su s'entendre et sont dans une puissance d'égarement parce qu'ils sont dans une puissance de mensonge. C'est pour cela que je reviens à mon texte de Jérémie qui dit « Ils m'observent, si je chancelle, ils en profitent, mais si je marche droit, à ce moment-là, c'est eux qui vont chanceler. » Et là, je serai bien heureux de voir la justice de Dieu s'accomplir. Veillons donc sur nos actions. Nous pouvons poursuivre, toujours dans Marc 14, aller un peu plus loin, en versets 62 et 64. Jésus dit « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Au moment où les fausses accusations sont présentes, nous pouvons à ce moment-là donner la pleine vérité. Cette vérité sera comme un feu dévorant pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la vérité et qui ne veulent pas obéir à la vérité. Venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Voilà que lorsque le diable ne peut plus porter faux témoignages contre nous, il change la doctrine de Dieu. Tout au moins, il essaie de la changer. Il essaie de changer les règles de façon à continuer à repousser l'onction. Écoutez bien. Lorsque l'onction vient sur vous, on vous observe. Une fois qu'on vous a observé, qu'on ne trouve rien, on met de faux témoignages. Et quand les faux témoignages ne fonctionnent pas, à ce moment-là, on vient contrer l'onction de vérité qui est en vous. C'est à ce moment-là qu'il faut être fort et qu'il faut être un véritable soldat de l'Éternel pour rester dans la vérité. Vous savez, ceux qui de toute façon ne veulent pas obéir à Dieu et ne veulent pas la vérité, n'écouteront pas. Ils n'écouteront pas. Donc, il ne faut pas se culpabiliser et il ne faut pas essayer de changer sa doctrine ou la vérité ou d'amoindrir la vérité. Il faut donner la vérité à ses accusateurs, et même si cela fait mal. Jésus va donc dire toute la vérité à ce moment-là. Et là, le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements et dire « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Les faux témoins, il n'y en a plus besoin. Vu ce qu'on entend, ce n'est pas notre doctrine. » Et c'est là où Dieu fera la différence entre ceux qui ont la vérité et ceux qui ne l'ont pas. Nous n'avons pas la vraie doctrine. C'est ce qui va se passer pour ceux qui ne seront pas enlevés. Ceux qui ne seront pas enlevés n'auront pas compris qu'ils ont été observés toute leur vie et qu'ils ont chancelé toute leur vie. Jésus viendra, il enlèvera l'Église et eux, ils resteront. À ce moment-là, il y aura une prise de conscience. À ce moment-là, ils repartiront à la case départ. Ils veilleront sur leurs actions, ils veilleront sur la loi de Dieu, ils veilleront sur leurs paroles. Alors, on ne pourra plus les accuser, mais on enverra des faux témoins. Et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de faux témoins, parce que la vraie doctrine ne sera plus reconnue. Et ils seront persécutés. C'est pourquoi Jésus, à ce moment-là, est persécuté non plus à cause du faux témoignage, non plus à cause de l'observation de sa vie, mais à cause de la vérité. Il y a un moment où nous sommes persécutés à cause de la vérité, où nous sommes observés et contredits à cause de la vérité et de l'onction, eh bien il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que c'est avec cette vérité-là et cette onction-là que Dieu sauvera des multitudes. Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble tous le commandèrent comme méritant la mort. Nous sommes mis à mort à cause de la vérité. Que Dieu soit béni. Je préfère mourir pour la vérité que de vivre pour le mensonge. Alléluia. C'est la vérité qui va triompher. Tous les menteurs vont être obligés de capituler bientôt, très bientôt. Tous ceux qui sont dans le mensonge, tôt ou tard, sont confrontés à la vérité. Ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, le chrétien est fort parce qu'il sait que tout est une question de temps. Et le temps ne lui fait pas peur. Si vous êtes un chrétien observé, n'ayez pas peur, le temps jouera pour vous. Si vous êtes un chrétien persécuté par de faux témoignages, n'ayez pas peur, le temps va jouer pour vous. Les faux témoignages vont se contredire à un moment donné et la vérité va éclater. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide à comprendre le sens de ce message. Prenons ce que nous avons jugé être bon pour nous-mêmes et ne cherchons pas à nous laisser tourmenter par ce qui ne nous concernait pas. Que Dieu soit béni. Je résume donc. Dieu nous donne quelque chose. À ce moment-là, nous sommes observés sur les actions sociales, sur les actions par rapport à la loi de Dieu. Ensuite, nous sommes observés dans la cohésion par rapport à nos paroles. Et une fois que la boucle est bouclée et que personne ne peut nous accuser parce que nous ne chancelons pas, à ce moment-là, les faux témoignages arrivent. Les faux témoignages se marcheront les uns sur les autres, s'embrouilleront et la vérité éclatera. Et ce jour-là, vous serez de vrais soldats de l'Éternel parce que c'est à ce moment-là qu'on vous demandera de dire toute la vérité et que vous donnerez tout le conseil de Dieu. Ceux qui seront hypocrites iront jusqu'à repousser la vraie doctrine biblique. Et ceux qui aiment le Seigneur profiteront de la vérité que vous êtes en train de dire pour être sauvés. Parce que je vous rappelle quand même que dans le passage de Marc 14, il y avait des gens hypocrites qui refusaient la vérité. Mais ça n'a pas empêché que d'autres entendent la vérité et soient sauvés. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.